Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Fritz Lang en Amérique, seconde partie, sur Séances Radio par BNP Paribas.
Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Dans le dernier numéro du filmographe, nous avons suivi les premiers pas de Fritz Lang à Hollywood. Après avoir fui l'Allemagne nazie, après avoir tourné un film à Paris, Lilium, avec Charles Boyer et Madeleine Ozeray, ce célèbre cinéaste allemand, qui a déjà réalisé quelques chefs-d'œuvre incontestés dans son pays, comme Les Trois Lumières, Métropolis, ou évidemment l'incontournable Le Maudit, se retrouve donc, comme pas mal d'autres cinéastes européens, des scénaristes aussi, des acteurs, à Hollywood. Il y tourne dès 1936 des films assez marquants et très langiens, comme Fury par exemple, J'ai le droit de vivre, ou dans un autre genre, Le retour de Frank James. Nous nous étions quittés à la fin du dernier filmographe, après Cap et Poignard, un film anti-nazi sorti en septembre 1946. Alors, nous poursuivons cette balade américaine et nous retrouvons donc Fritz Lang après la guerre.
Et après la guerre, Fritz Lang va devenir l'un des meilleurs spécialistes d'un genre cinématographique qui convenait particulièrement bien à son regard désenchanté sur le monde, mais aussi à sa manière très graphique de filmer, le film noir. Le premier grand film noir de Fritz Lang est La femme au portrait. Il compose avec La rue rouge deux films presque jumeaux ayant pour thème la tentation d'un petit bourgeois entre deux âges, comme toile de fond la peinture et comme interprète un trio composé d'Edward G. Robinson, John Bennett et Dan Duryea.
On commence avec La femme au portrait, 1944.
La femme au portrait a été produit et écrit par Nunnally Johnson, l'un des plus grands auteurs de l'âge d'or d'Hollywood. C'est l'histoire de Wanley, un professeur interprété par Edward G. Robinson. Il vient d'envoyer sa femme et ses enfants en vacances et se rend en tout bien, tout honneur à son club. Il remarque en chemin le magnifique portrait d'une femme dans une galerie d'art. En sortant de son club, il s'arrête à nouveau devant cette galerie lorsque le visage de la femme au portrait se reflète soudain dans la vitrine. Elle est là, à côté de lui, en chair et en os, sous les traits de la belle John Bennett. Wanley accepte d'aller prendre un verre chez elle et c'est alors que surgit l'amant de John Bennett qui frappe sa maîtresse et menace le professeur Wanley. Et alors Wanley, ben qu'est-ce qu'il fait? Il se défend avec une paire de ciseaux et il tue l'amant. Et l'amant, c'est pas n'importe qui, il s'avère être un businessman très en vue. Wanley va renoncer à prévenir la police par peur du scandale et à partir de là, toute sa vie ne va être qu'une vaste tentative pour échapper au filet qui se resserre sur lui, ceux de la police mais aussi ceux d'un maître chanteur interprété par Dan Duryea, un des méchants les plus remarquables d'Hollywood. Alors je vais pas vous révéler la fin de ce film, mais elle fit intensément débat entre Fritz Lang et Nunnally Johnson.
C'est pas la fin du roman original, on n'en dira pas plus.
L'ambiance fut d'ailleurs mauvaise sur le tournage. Fritz Lang était tout aussi émoustillé par sa vedette que le professeur Wanley l'est par la femme au portrait. Et donc Fritz Lang va consacrer énormément de temps à tourner des scènes pas forcément très utiles qui s'attardaient sur les courbes et la mise en pli de John Bennett. En 1945, Fritz Lang réalise La rue rouge, cette fois avec comme scénariste Dudley Nichols, qui va adapter un roman du français Georges de la Fouchardière. Le film est produit par Diana Productions, une société qui a été montée par Fritz Lang avec John Bennett et surtout Walter Wanger. Walter Wanger avait été l'associé déçu de Fritz Lang sur J'ai le droit de vivre, mais il se trouvait être aussi le mari de John Bennett. La Rue Rouge raconte l'histoire de Christopher Cross, un caissier interprété par Edward G. Robinson, qui est marié à une épouse acariâtre qui le persécute et qui regrette ostensiblement son premier mari, un policier défunt dont le portrait trône dans le salon. La seule consolation du caissier, c'est de peindre des tableaux que sa méprisante épouse juge minables. Et un jour, il rencontre Kitty, qui est interprétée par John Bennett. Et là, il va lui faire croire qu'il est un grand artiste. Et il va être amené à détourner des fonds pour la loger dans un appartement de luxe. L'amant de Kitty, Johnny, interprété par Dan Dureya, commence à vendre des tableaux de Cross en prétendant qu'ils ont été peints par Kitty. Et contre toute attente, les tableaux se vendent très cher car un critique qui est tombé dessus par hasard les trouve absolument géniaux. À la suite de diverses péripéties, et conformément aux obsessions de Fritz Lang, le faux coupable d'un crime va être condamné à la chaise électrique tandis que le vrai meurtrier restera taraudé par son crime. Vers la fin du film, il y a un journaliste qui développe une théorie omniprésente dans l'œuvre américaine de Lang. Personne n'échappe à la justice, on a tous un tribunal en nous, un juge, des jurés, des bourreaux. La culpabilité entre en nous et n'en ressort jamais, on finit par se punir soi-même.
Il s'agit bien sûr du remake de La Chienne tourné par Jean Renoir 14 ans plus tôt avec Michel Simon.
Fritz Lang, d'ailleurs, apparemment, avait vu ce film lorsqu'il était passé en France.
En 1931,
voilà, mais ne l'a pas revu ensuite.
Il ne l'a pas revu, mais il a avoué s'en être souvenu.
Exactement. Le film suivant est « Le secret derrière la porte » en 1948, à nouveau produit par Walter Wanger avec John Bennett dans le rôle principal, en compagnie cette fois de l'anglais Michael Redgrave, le père de Vanessa, qui avait tourné avec Hitchcock dans « Une femme disparaît ». « Le secret derrière la porte » n'est d'ailleurs pas sans point commun avec un chef-d'œuvre de Hitchcock, Rebecca, puisque John Bennett interprète la jeune épouse d'un homme qui habite une demeure mystérieuse. Alors cette fois-ci, cet homme a un hobby plutôt inquiétant, consistant à reproduire dans cette maison des pièces qui ont été le théâtre de crimes célèbres.
Et la musique du secret derrière la porte est signée Miklos Rossa, qui avait également composé la musique de la maison du docteur Edwards, dans laquelle il y a une fameuse scène de porte qui s'ouvre comme ça les unes derrière les autres quand les deux héros s'embrassent. Mais revenons à Fritz Lang, et là nous sommes maintenant en 1950.
En 1950, où sort « The House by the River », un film que j'adore, un film qui est nimbé de mystère, où Lang met en scène Louis Hayward, un acteur d'origine britannique qui savait particulièrement bien jouer les personnages tourmentés. Je crois qu'il était d'ailleurs lui-même assez tourmenté.
Ça aide.
Et Hayward interprète un écrivain qui, un jour où sa femme est en ville, se retrouve seul dans sa maison avec sa jeune domestique. Il tente de la séduire et tandis qu'elle commence à lui résister, il essaie de la faire taire et l'étrangle. Là, il est surpris par son frère, il obtient le silence et la complicité de celui-ci en lui faisant croire que sa femme attend un enfant. C'est un film à l'ambiance particulièrement oppressante car l'écrivain et son frère, interprété par un excellent Lee Bowman, sont perpétuellement hantés par le crime qui devient pour Hayward une source d'inspiration littéraire. Les obsessions habituelles de Fritz Lang se retrouvent donc dans ce film, mais dans un cadre différent, car le milieu urbain est ici remplacé par la maison au bord de la rivière, cette rivière même où les deux hommes ont essayé de faire disparaître le corps de la servante assassinée. Fritz Lang disait qu'il s'était battu comme un Troyen pour obtenir que cette domestique puisse être une femme de couleur, ce qui aurait renforcé la dimension de critique sociale du film. Mais l'Amérique de Fritz Lang n'est pas celle de Milos Forman et le bureau de censure ne laissera pas passer cette idée. Le film suivant, un film de guerre, Guérilla, en 1950, réunit Tyrone Power et la belle actrice française Micheline Prel, alors au sommet de sa carrière en France où elle venait de tourner Le Diable au corps et Les Jeux sont faits. De son propre aveu, Lang a surtout tourné ce film pour gagner de l'argent et alors il va d'autant plus regretter de l'avoir tourné en décor naturel aux Philippines que c'est pendant qu'il était éloigné d'Hollywood que le cinéaste alors débutant Joseph Losey parvint à se faire confier la réalisation d'un remake de M le Maudit qui fut tourné sans aucune bénédiction de Lang et que celui-ci jugeait très mauvais.
Eh bien, je vous invite à revoir ce Lauzet, M, effectivement. Je signale que Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Courson, dans leur nouvelle édition de 50 ans de cinéma américain, écrivent « Revoir les deux versions coup sur coup ne tourne pas forcément à l'avantage de langue ». Et je vous le dis, le remake de Lauzet est un très bon film, revoyez-le. Mais cela,
mais les, oui, les films de Lauzet sont souvent des bons films.
Voilà,
mais,
alors, il a avoué qu'il avait fait ça pour de l'argent, mais n'empêche qu'il y a des grands moments, et dans leur conversation avec Michel Simon, ils reviennent dessus et ne sont pas éloignés de penser que c'est un des bons films de Lauzet.
Mais enfin, ça énervait beaucoup Lang qu'on ait fait ça sans le consulter.
Mais donc, on va revenir quand même à Fritz Lang. Donc, qui se retrouve là maintenant? En 52, il tourne...
Le démon s'éveille la nuit. Un film dont la vedette est Barbara Stanwyck, mais où Marilyn Monroe fait une de ses premières apparitions importantes à l'écran. Ce film se déroule dans la pittoresque Canary Row de Monterey, la rue de la Sardine, chère à John Steinbeck, qui n'est cependant pour rien dans le scénario, qui est tiré d'une pièce de Clifford Odets. Barbara Stanwyck joue un rôle classique pour elle, celui d'une femme qui revient chez elle après avoir roulé sa bosse pendant plusieurs années. Là, elle retrouve deux hommes, un bon, interprété par Paul Douglas, et un mauvais, que joue le toujours excellent Robert Ryan. Ce film a un happy end qui n'est pas forcément très crédible. À propos de Marilyn Monroe, Fritz Lang a dit « C'était pratiquement son premier film ». Je ne dirais pas qu'elle avait déjà une étoffe de star, mais elle savait parfaitement l'impact qu'elle pouvait avoir sur les hommes. Elle avait deux ou trois répliques à donner dans une scène où elle se trompait tout le temps. Jamais Barbara Stanwyck n'a dit quoi que ce soit à ce propos, elle s'est montrée incroyablement gentille avec elle. Paul Douglas, lui, la haïssait. Il y avait quelques pressions liées à la vie privée de Marilyn qui faisaient que Jerry Wald, le producteur, voulait mettre son nom en aussi gros sur l'affiche que celui des autres. Barbara déclara « Qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est une star qui monte. »
It's kind of exciting and attractive.
Who's attractive? Who's excited?
Earl!
Who?
Joy is strangling me!
Who's exciting? Who's attractive?
You.
That's better.
Un court extrait avec Marilyn Monroe et son fiancé dans le film Kiss and Death dans donc le démon s'éveille la nuit. Toujours en compagnie d'Antoine Cyr, nous poursuivons ce filmographe consacré aujourd'hui à la période américaine de Fritz Lang.
En 1953 sort La femme au gardénia, un film avec Anne Baxter dont les rôles masculins sont interprétés par Richard Comte et Raymond Burr, que l'on retrouvera quelques années plus tard cloué dans un fauteuil roulant pour la célèbre série télévisée L'Homme de Fer. Et puis, il y a aussi, dans ce film, le grand Nat King Cole qui chante une chanson qui va devenir un tube intitulé précisément « Blue Gardenia ».
Blue Gardenia, now I'm alone with you, and I'm also blue. She has tossed us aside, and like you, Gardenia, once I was near her heart, after the teardrops start, where are teardrops to hide? I lived for an hour. What more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memories. I lived for an hour. What more can I tell? Loved bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memories.
La femme aux gardénias, c'est à nouveau une variation sur le thème essentiel de la culpabilité, avec en toile de fond un autre thème, celui du viol, également très présent dans les films de Lang. Anne Baxter joue une standardiste qui a rendez-vous avec un illustrateur connu et qui essaie de la violer. Elle le frappe violemment et là, elle perd connaissance. Quant à l'illustrateur, il est trouvé mort le lendemain et elle est convaincue qu'elle l'a tué. Elle sollicite l'aide d'un jeune journaliste pour essayer de se sortir de cette situation. Ce film véhicule une vision particulièrement perfide de la société américaine où les femmes sont le jouet des pulsions et du pouvoir des hommes. Lang disait à son propos « Ce fut mon premier film de l'après-McCarthy, c'est sans doute ce qui m'a rendu si venimeux ». En effet, Fritz Lang, qui n'était pas communiste, avait un jour accepté d'adhérer à une association à laquelle appartenaient beaucoup d'autres personnalités, comme le producteur Walter Wanger ou l'écrivain Thomas Mann. Cette organisation s'avéra être d'inspiration communiste. Lang ne participa à aucune de ces réunions et on ne put jamais trouver aucun signe tangible d'engagement communiste de sa part. Il ne fut donc ni condamné, ni placé sur aucune liste noire officielle, mais il connut tout de même une période de purgatoire pendant laquelle les grands studios l'évitèrent. Le premier à permettre le retour en grâce de Lang fut Harry Cohn, le patron de la Columbia, qui lui confia le projet de règlement de compte, The Big Hit, en 1953.
La musique de Règlement de compte est l'œuvre du Polonais Henri Wars.
Règlement de compte est un grand film noir d'une facture qui en fait une œuvre plus moderne que d'autres chefs-d'œuvre par exemple Assurance sur la mort où le facteur sonne toujours deux fois et qui se compare en revanche au Asphalt Jungle de John Huston. L'action démarre par une scène insolite qui en dit long, le suicide d'un officier de police. Le sergent Bagnon, interprété par Glenn Ford, mène l'enquête, ce qui gêne un gros bonnet de la pègre du nom de Mike Lagana, interprété par Alexander Scourby. Et Lagana va essayer de s'en prendre à Bagnon, mais c'est l'épouse de celui-ci qui va être tuée. Bagnon n'aura bien sûr de cesse de confondre Lagana. C'est un film qui dresse un portrait sans concession de la police et des relations qu'elle entretient avec les milieux de la pègre. C'est aussi une œuvre violente où la culpabilité omniprésente, comme toujours chez Lang, imprègne physiquement les personnages. On trouve un jeune Lee Marvin qui interprète un lieutenant de Lagana particulièrement sans scrupules. Il ébouillante Gloria Graham avec du café brûlant. Elle va porter les stigmates de sa brûlure comme s'il s'agissait d'une espèce de tâche morale indélébile et se vengera à la fin du film en infligeant à Lee Marvin exactement la même punition.
Et si vous voyez ou revoyez Règlement de compte prochainement, vous constaterez qu'à la fin de la première scène qui oppose Lee Marvin et Glenn Ford dans cette boîte de nuit, quand ils remontent l'escalier là, en partant, en quittant les lieux, et bien on entend quelques mesures du fameux « Put the blame on Mame », la chanson du film Gilda, interprétée 7 ans plus tôt, évidemment par Etta Ewers, mais aussi par Glenn Ford. C'est une sorte d'hommage peut-être aux comédiens et qu'on va retrouver maintenant, n'est-ce pas Antoine?
Oui, on le retrouve avec Gloria Graham dans le film suivant de Fritz Lang, Désir humain, Human Desire de 1954. Fritz Lang et son producteur Jerry Wald avaient le projet de réaliser une adaptation américaine et moderne de La Bête humaine, le roman de Zola, porté à l'écran avec Jean Gabin, par Jean Renoir en 1938, Jean Renoir qui les avait déjà inspirés avec La Chienne. Les acteurs sont excellents, mais Zola, revu de cette manière et encadré par la sourcilleuse censure américaine des années 50, n'a évidemment qu'un lointain rapport avec l'Émile que nous connaissons. En 1955, Lang réalise un film totalement à l'écart de la veine du film noir qu'il cultivait à l'époque, Les Contrebandiers de Moonfleet. Les Contrebandiers de Moonfleet, c'est un grand film d'aventure en couleur avec trois formidables acteurs anglais, Stewart Granger, George Sanders et la belle John Greenwood, ainsi que dans un rôle bref mais éblouissant de bohémienne incendiaire, la danseuse française Liliane Montevicki. Le film était produit par la MGM qui imposa à Fritz Lang de tourner en cinémascope alors que comme beaucoup d'autres réalisateurs, il détestait ce format. Moonfleet est tiré d'un remarquable roman, nimbé d'une sombre ambiance poétique et mystérieuse, publié en 1898 par John Mead Faulkner, rien à voir bien sûr avec William Faulkner. Pour reproduire cette ambiance à l'écran, Fritz Lang disait s'être inspiré des tableaux du peintre britannique William Hogarth. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui voue une admiration sans borne au chef téméraire d'une bande de contrebandiers de la côte anglaise, interprété par Stuart Granger. Le jeune enfant voudrait absolument faire du bandit son père adoptif, mais celui-ci ne cesse de répéter à l'enfant qu'il ne l'aime pas. Alors bien entendu, cette histoire développe encore et toujours le thème de la culpabilité, celle qui conduit ici Stuart Granger à ne pas vouloir que ses turpitudes se propagent à ce jeune enfant plein de bons sentiments. Plusieurs fins furent tournées pour Moonfleet et celle à laquelle Lang tenait absolument ne fut pas retenue par la production.
Et le jeune comédien de 10 ans, là, le petit garçon qui joue face à Stuart Granger, s'appelait Joe Whitley et il va abandonner le cinéma et devenir historien spécialisé dans l'histoire de l'art.
En 1956 vont sortir les deux derniers films américains de Fritz Lang, mais deux films très importants qu'il aimait beaucoup, deux films noirs qui montrent une Amérique particulièrement corrompue. Tout d'abord, While the City Sleeps, baptisé en France la cinquième victime, car le titre Quand la ville dort avait déjà été donné à Asphalt Jungle, le chef-d'œuvre de John Huston. While the City Sleeps réunit une pléthore de grands acteurs habitués des films noirs, Dada Andrews, Vincent Price, George Sanders, Thomas Mitchell chez les hommes et Ida Lupino, Sally Forrest et une Rhonda Fleming à la sensualité comme toujours volcanique chez les femmes. Vincent Price interprète le jeune héritier incapable d'un empire de presse qui va mettre en concurrence ses principaux lieutenants avec un effroyable cynisme afin de désigner celui qui assurera la direction opérationnelle de son groupe. Il annonce qu'il choisira celui de ses rédacteurs en chef qui parviendra à démasquer le tueur en série qui sévit alors dans la ville et qui s'attaque à de jeunes et jolies femmes. Le thème de la justice parallèle, souvent développé par Lang depuis M. le Maudit, sert ici pour critiquer la société américaine. Une justice rendue par des journalistes aveuglés par leur soif de pouvoir ne peut être qu'une mauvaise justice. Tous les médias du groupe sont en concurrence, le journal, l'agence de presse, l'agence photo et la chaîne de télévision dont on sent déjà poindre le pouvoir supérieur. Tiré du roman d'un certain Einstein, qui n'a bien sûr rien à voir avec l'homme de la relativité.
Ah, lui, c'était Charles Einstein.
Voilà, exactement. While the City Sleeps a été produit par Bert Friedlob, une sorte de playboy fortuné qui n'était pas sans point commun avec le personnage interprété par Vincent Price et qui avait été l'époux d'une des plus jolies comédiennes de l'histoire d'Hollywood, Eleanor Parker. Le dernier film de Fritz Lang en Amérique sera Beyond a Reasonable Doubt, au-delà d'un doute raisonnable, formule classique du droit pénal américain. En France, le film sortira sous le titre L'invraisemblable vérité. C'est un film qui, comme le précédent, est produit par Bert Friedlob.
Et ce sera d'ailleurs sa dernière production, il mourra à 50 ans, un mois après la sortie de L'invraisemblable vérité.
Dans L'invraisemblable vérité, donc, on retrouve Dana Andrews, cette fois en compagnie de la très élégante Joan Fontaine, la vedette du Rebecca de Hitchcock. Afin de démontrer l'incompétence des lois et de la police, un écrivain interprété par Dana Andrews fournit des preuves contre lui-même dans une affaire de meurtre. Il est prévu qu'il doit se laisser condamner à mort et qu'au dernier moment, son éditeur révélera la vérité pour ridiculiser la justice et naturellement sauver la tête du mystificateur. Le problème, c'est que cet éditeur meurt dans un accident. Et donc, le sort de Dana Andrews repose désormais sur sa fiancée, qui est interprétée par John Fontaine et qui entreprend de reconstituer les preuves de son innocence. Tout s'enchaînera bien jusqu'aux dernières minutes du film, qui nous valent un twist d'anthologie, l'un des plus extraordinaires retournements de situation de l'histoire du cinéma. L'invraisemblable vérité est un film d'une noirceur absolue car en fait il montre un peu l'impossibilité de tout, d'une bonne justice, d'une humanité honnête, d'un amour véritable. Fritz Lang a dit dans plusieurs interviews qu'il appréciait les happy ends et son œuvre en compte en effet quelques-uns, le plus souvent tirés par les cheveux et imposés par les producteurs. Mais la fin de Beyond a Reasonable Doubt rétablit spectaculairement cette vérité que Lang avait parfois essayé de nous cacher. Il est avant tout un grand cinéaste tragique. Pour Fritz Lang, c'est désormais la fin de sa période américaine. Il va retourner en Allemagne pour produire deux sympathiques films d'aventure se déroulant en Inde, Le Tombeau Hindou et Le Tigre du Bengale, ainsi qu'un dernier avatar des aventures du docteur Mabuse, l'hypnotiseur fou qu'il avait créé avant-guerre. Lang s'éteindra en 1976, à l'âge de 85 ans, non sans avoir donné au critique et cinéaste Peter Bogdanovich une série d'entretiens sur sa période américaine qui ont été édités en France par les Cahiers du cinéma et qui nous ont naturellement été précieux pour la réalisation de ce filmographe.
Eh bien, merci Peter et merci Antoine.
Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.